Ne me dites pas que rien n'est impossible parce que c'est pas vrai, c'est même n'importe quoi. Vous me dites ça alors que je viens de le supposer, de le formuler et donc de le faire exister, l'impossible. C'est quand même drôlement méprisant de déclarer comme ça qu'il n'existe pas, mon impossible à moi. C'est un petit peu comme l'expression quand on veut, on peut. Vous savez, cette façon qu'ont certaines personnes d'insister sur notre médiocrité en prenant un exemple, un modèle, une exception pour qui ça a marché. La vérité, tout le monde le sait, c'est que parfois on veut de toutes nos forces, mais on sait très bien qu'on ne pourra jamais, et que ce genre de phrase qui charrie tout l'attirail de cette grande illusion qu'est la méritocratie, ce genre de phrase « rien n'est impossible, quand on veut, on peut », ce genre de phrase qui est pleine de bonnes intentions et qui voudrait nous motiver, tout ce que vous voulez, ça n'apporte rien, à part nous culpabiliser de n'être bon à rien. Je voudrais réhabiliter l'impossible ce matin, parce que on peut très bien s'en contenter de l'impossible, on peut même s'en réjouir. Il faut rêver de l'impossible, dans un soupir, un haussement d'épaule, on peut même en sourire, et un rêve ne doit pas forcément s'accomplir, sinon c'est plus un rêve, c'est un objectif, une performance en puissance, un plan de carrière. Je voudrais réhabiliter l'impossible parce qu'il offre justement la possibilité du miracle, c'est-à-dire de l'inexplicable, du prodige, du merveilleux, de l'extraordinaire. C'est avec cette matière-là que l'on rêve et elle n'a aucune raison d'être si rien n'est impossible.
Boomerang, boomerang. Augustin Trapenard.
Bonjour à tous, bienvenue. Dans Boomerang, mon invité d'aujourd'hui, a-t-il un jour reculé devant l'impossible ? Cinéaste aussi rare qu'inclassable, on lui doit des films majeurs comme Mauvais Sang, Les Amants du Pont-Neuf, Paula X ou Holly Motors. Après 9 ans d'absence, Annette, son nouveau film, avec Marion Cotillard et Adam Driver notamment, est en compétition pour la Palme d'Or et fera l'ouverture du Festival de Cannes, dont le coup d'envoi sera donné mardi. C'est une comédie musicale absolument hors norme. Bonjour, Léo Scarrax.
Bonjour.
Merci d'être là. Qu'est-ce qui est impossible dans la vie ?
A priori, un film est impossible à faire. On part toujours de cette impossibilité-là, puis on cherche comment faire. C'est un peu la particularité peut-être du cinéma, il n'y a pas ça. Enfin, la littérature ne doit pas être facile non plus, mais disons que le cinéma est l'art de l'impossible ou du miracle, ou de cette image animée qui a fait tellement peur au début. Les premiers spectateurs qui ont vu arriver ce train... Il faut retrouver cette force-là, ce qui se paraît toujours impossible, parce qu'une fois qu'on a vu un train nous arriver dessus, on n'a plus peur, etc.
Quand est-ce que vous l'avez compris, ça ? Vous l'avez toujours su ?
Non, parce que je suis arrivé au cinéma, comme les enfants de mon âge, par les acteurs ou les actrices, je sais pas, Charles Bronson ou Marilyn Monroe, donc je ne m'intéressais pas, je ne savais même pas qu'il y avait quelqu'un derrière. Donc c'est en faisant, ou en n'arrivant pas à faire souvent, que j'ai approché le...
Et quelles images impossibles vous est-il arrivé d'oser, Léos ?
Il y a toujours quelque chose d'impossible dans un film, enfin souvent en tout cas. Ça peut être des questions d'argent, évidemment. C'est-à-dire, on peut rêver d'un film qui n'est pas faisable, ce qui m'est arrivé souvent. Ce qui m'est arrivé aussi souvent, c'est de ne pas arriver à faire un film parce que je ne trouvais pas les gens, souvent un homme et une femme, à filmer. C'est-à-dire, si j'imagine un projet sans avoir un acteur et une actrice en tête, souvent je ne vais pas arriver à le faire parce que ce qu'on appelle le casting me paraît tellement absurde et... Est-ce qu'un acte de ségrégation où finalement on dit non, toi tu peux pas le faire, t'es trop grosse, toi t'es trop maigre, toi t'es trop petit, toi t'es noir, je voudrais un blanc ou le contraire. Donc le casting m'a toujours paru une chose très étrange et a rendu certains films impossibles. Et après, souvent, ce qui fait l'originalité des cinéastes ou des films, c'est ce qu'on y mélange. C'est-à-dire que personne n'est original a priori, mais c'est le mélange, c'est-à-dire ce qu'on appelle le montage, qui fait qu'en choisissant deux images que personne n'avait mis l'une à côté de l'autre avant, on crée cette image nouvelle qui choque, ou qui, etc.
C'est aussi s'exposer au risque de l'échec, je suppose. En quoi faire un film, ça n'a de sens pour vous que si ça constitue un risque, justement ?
C'est pas juste un film, là, du coup, ça serait la vie. Oui, je pense que... Pour ceux qui ont la chance, comme moi, qu'on n'a pas connu la guerre, disons, à la maison, même si je suis né 15 ans après que... C'était encore une France très marquée par la guerre. Moi, tout ce que je voyais à la télé, c'était des trucs qui s'appelaient les dossiers de l'écran noir et blanc sur la torture et la résistance, la collaboration, les nazis. Mais je ne l'ai pas connu, la guerre. Je n'ai pas eu à hésiter entre la collaboration et la résistance. Mais je pense que oui, c'est-à-dire qu'il faudrait apprendre ça aux enfants dans les écoles. Il faut apprendre le courage. Donc le risque, et que sans risque, on ne s'amuse pas et on n'invente pas non plus.
Quel est le plus beau risque que vous ayez pris ?
Oh, ça, je ne sais pas. Je ne sais pas.
Celui peut-être d'aller au bout d'un film comme Les Amants du Pont-Neuf, par exemple, film dont la fabrication est entrée dans la légende des films maudits.
Bah, c'était l'inverse, le risque n'était pas le finir. C'est-à-dire, je pense que j'aurais jamais plus refait de cinéma si je l'avais pas fini. J'ai mis 10 ans à m'en remettre, mais si j'avais pas pu le finir, je pense que j'étais fini.
Jusqu'où vous êtes prêt à aller pour finir un film?
Je m'en rends pas compte. Je m'en rends pas compte. J'ai plus revécu ce que j'ai vécu sur Les Amants. J'ai vécu d'autres situations difficiles ou alors des impossibilités de faire des films. Mais je voudrais pas revivre ça. C'est-à-dire 3 ans bloqués sur un film. Non, maintenant c'est plutôt comme jusqu'où je suis prêt à aller pour faire un film.
Et en amour, parce que l'amour est absolument central dans votre nouveau film Annette, qui met en scène 2 personnages follement amoureux, joués par Adam Driver et Marion Cotillard, mettre en scène, filmer, raconter l'amour, ce que fait le cinéma depuis toujours, comment on fait pour y injecter justement de l'impossible?
Mon premier film s'appelait Boy Meets Girl, ce qui veut dire un garçon rencontre une fille, ce qui est un peu le thème le moins original qui soit. D'ailleurs, ça vient d'une anecdote d'Hitchcock, je crois qu'il racontait ça à Truffaut. Il parlait d'un scénariste à Hollywood qui se réveille la nuit avec une idée géniale, se rendort très excité, se réveille, il a oublié son idée géniale. Donc il met un petit bout de papier, un stylo près de la table de nuit, et la nuit suivante, il a une idée géniale, etc. Et il se réveille, et soulagé d'avoir ce petit bout de papier, il le lit et écrit « Boy Meets Girl ». Donc un garçon rencontre une fille, donc il avait une idée géniale que tout le monde a eue avant lui. Beaucoup de mes films ont été des films « Boy Meets Girl ».
Comment à partir de ça on réalise l'impossible?
Si vous voulez, c'est pour la première fois dans Annette. Je ne suis pas l'origine d'Annette, hein, c'est les musiciens, les Sparks qui m'ont proposé le projet. Et pour la première fois, je n'avais pas filmé de rencontre. C'est-à-dire que la rencontre a lieu juste avant le début du film. Ce qui est assez rare, finalement. C'est intéressant, mais c'est difficile, par exemple. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on montre l'amour nouveau sans avoir rencontré la rencontre? Comment on montre cette timidité ou cet embarras des amants nouveaux, quoi? Et dans l'impossible, ce serait presque le sujet de ces films-là. Ces films-là montrent un élan impossible. C'est pour ça que je me sers souvent de la vitesse, ou des courses, ou de la danse, ou des motos, pour montrer cet élan impossible, mais qui est, même dans l'impossibilité, il nourrit des choses, il crée des choses. Enfin, il n'est pas morné, il est juste, c'est un peu la volonté d'échapper à la gravité, ou d'atteindre la pesanteur, en amour ou comme partout.
C'est beau. Cette histoire, elle a pour toile de fond le monde du spectacle et du divertissement. Il y a presque quelque chose de monstrueux et de violent dans l'industrie du divertissement. Quel est le prix à payer pour divertir? En fait, c'est une des questions que vous posez.
Là, on rentre dans un genre, ce film, qui est la comédie musicale. J'avais jamais fait de film de genre, même si j'espère réinventer un petit peu la chose. Mais... Donc la comédie musicale est très liée, effectivement, presque au show business. C'est-à-dire ce que les Américains appelaient le show business, tous ces films qu'on a vus de... Marilyn, justement, ou Minelli ou d'autres, qui montrent non seulement la représentation, mais les coulisses, mais aussi la relation au spectacle, la relation au public. Et on rentre là-dedans, donc c'était pas par choix de ma part, c'était pas quelque chose qui me trottait la tête. C'était imposé par ce sujet, et ça m'a intéressé, même si je connaissais rien à ce que faisaient les deux. Il y en a un qui est stand-up, hein, qui est oui. Comique, on dirait, sur scène, et l'autre qui est soprano. Je connaissais un peu le stand-up, mais je connaissais absolument rien à l'opéra.
Alors, c'est intéressant, vous parliez tout à l'heure du public, donc au sujet du personnage joué par Adam Driver. Justement, au début, on a l'impression que le public est à sa merci, en fait, qu'il le manipule, qu'il lui obéit. À plusieurs reprises, il ordonne à son public de rire, et celui-ci s'exécute. C'est comme s'il y avait un rapport de force, en fait, entre l'artiste et le public. Dans cette lutte, Léo Scarrax, entre l'artiste et le public, qui gagne?
Le film, j'espère, mais dans l'art vivant, je sais pas, c'est l'art très cruel. Je pense que les grands comiques sur scène sont des gens très torturés. Enfin, j'ai beaucoup lu et des biographies, autobiographies de types qui vomissent avant, de trac avant d'aller sur scène. Hein. Se dire qu'on va passer un rideau devant 1000 personnes et qu'il va falloir les faire rire, pour moi, c'est terrifiant. C'est comme, je sais pas, si on me demandait d'aller à poil à Cannes ou je ne sais quoi. Ou ces cauchemars qu'on fait quand on se retrouve à poil à l'école, hein, quand on est enfant.
Vous savez, il y a une question que je me suis posée tout au long du film. Quel effet produit la lumière? Vous, dont le film se passe souvent sur scène, qui est aussi justement entre l'éclat des projecteurs et le clair-obscur des coulisses. Quel effet produit la lumière sur quelqu'un?
C'est moi, j'ai commencé par le noir et blanc, après je passais à la couleur. Mais ce qui restait un peu constant, c'est que les 3/4 de chacun de mes films est de nuit. Donc la lumière est un trou, c'est-à-dire la nuit est là et la lumière vient trouver la nuit. Et ça permet aussi de reconstruire les choses. Même quand on n'a pas d'argent, si on filme de nuit, finalement, ce qu'on éclaire est la seule chose qui existe. On peut reconstituer un décor en choisissant ce qu'on éclaire. Et quand on a plus d'argent, d'autant plus, bien sûr. Donc je me suis de plus en plus dirigé vers du faux, si vous voulez, vers d'artifice. Mais la lumière, elle, les rares fois où elle est de jour, elle est naturelle, comme on dit, doit être réussi. Il faut réussir sa lumière naturelle et puis il faut réussir sa lumière nocturne. Et ça, je l'ai. Enfin, j'ai eu deux grandes complicités de ce côté-là dans ma vie, c'est-à-dire un garçon que j'ai rencontré quand j'avais 20 ans, quand j'avais 10 de plus, qui s'appelait Jean-Yves Escoffier. J'ai fait 3 films avec lui. Et puis...
Pas de chef opérateur.
Voilà. Et après, récemment, donc plus récemment, il y a une femme, donc Caroline Champetier. J'ai beaucoup de chance parce que la lumière, c'est un peu comme la musique, c'est très difficile d'en parler. Donc si on n'a pas quelqu'un à côté de soi qui vous pige presque sans un mot, on est un peu perdu.
Et symboliquement, Léo Scarrax, vous qui êtes si souvent dans l'ombre, quel effet a la lumière sur vous ?
Enfin, le métier de cinéaste, c'est un métier de l'ombre.
Sauf quand on va à Cannes.
Ouais, mais on n'est plus cinéaste quand on va à Cannes, représentant de commerce.
Celle qui passe son temps dans la lumière dans cette émission, vous la connaissez, c'est la culture et son actualité, qui pourtant n'est pas toujours très brillante. Que se passe-t-il donc aujourd'hui, vendredi 2 juillet ? Tapis rouge pour Roman Noir. Après 2 ans d'absence, le festival Quai du Polar, rendez-vous incontournable des amateurs de littérature policière, revient à Lyon pour le week-end. Déployé majoritairement en extérieur, Covid oblige, la manifestation reçoit plus d'une centaine d'auteurs, parmi lesquels les Goncourisés, Hervé Le Tellier et Nicolas Mathieu, les stars du genre Franck Tillier, Bernard Minier et Caryl Ferret, ou encore la journaliste amatrice de Simenon, Florence Obna. Le festival rendra aussi un hommage au plus cinéphile des Lyonnais, Bertrand Tavernier, disparu en mars dernier. Respect.
Halloween night, it's when people play tricks on each other.
C'est l'or du Lion d'or pour Jamie Lee Curtis. La Mostra de Venise a annoncé hier que l'actrice américaine recevrait un prix d'honneur pour l'ensemble de sa carrière en septembre prochain. Mondialement connue pour un poisson nommé Vanda, Jamie Lee Curtis avait notamment fait ses débuts devant la caméra dès la fin des années 70 en Babysitter, traqué par un serial killer dans l'horrifique Halloween de John Carpenter. Comme un clin d'œil, le festival projettera en hors compétition le 3e volet de cette saga culte, pilotée cette fois par David Gordon Green et dans laquelle l'actrice tient le rôle principal. L'American Dream d'Albertine, après les villas Médicis à Rome et Kujoyama à Kyoto, la France va créer la Villa Albertine, sa première résidence d'artiste aux États-Unis. Contrairement aux deux précédentes, celle-ci ne sera pas fixe, mais disséminée dans une dizaine de villes, permettant aux résidents de voyager à travers le pays pour s'imprégner de sa culture, de son histoire et de ses mythes. Les premiers résidents arriveront en novembre. L'autrice Constance Debré s'intéressera à la contre-culture depuis New York. Le plasticien Nicolas Flock explorera le bassin du Mississippi. Et puis le cinéaste Alain Gomis sillonnera les routes sur les traces du jazzman Thelonious Monk. Et enfin, tout est pardonné, le très suisse Montreux Jazz Festival entame aujourd'hui une 55e édition adaptée aux conditions sanitaires. La manifestation inaugurera aussi une nouvelle scène en extérieur avec vue sur le lac de la ville que le français Woodkid aura l'honneur de baptiser dès ce soir. Au programme de cette quinzaine swingante, En Diable, Ibrahim Malouf, Iseut, Ouklou, Camélia Jordana, Jeff Mills, Fatoumata Diawara. Le festival proposera en outre toute une programmation gratuite et ouverte à tous avec mini showcase, DJ set, projection de films et jam sessions. Que du bon. Le cinéaste Léo Scarrax, invité de Boomerang ce matin pour son film Annette, en ouverture du Festival de Cannes, un événement dont nous avait fait part Thierry Frémaux dans cette émission. Et ce que je rappelais en début d'émission, c'est que votre dernier film, Holly Motors, remonte à 9 ans. Et qu'est-ce qui s'est joué pour vous pendant ces 9 ans ?
En 9 ans, j'essaye de faire des films. Celui-là, là, Annette, est passé, il a commencé comme un film américain avec des Américains, puis il est passé en France, puis il a changé de producteur en France. Je trouvais pas l'actrice, puis on n'avait pas assez d'argent, etc. Tout ce qui est normal quand on essaie de faire un film cher, il est normal d'avoir des problèmes, mais...
La recherche du désir aussi, l'idée de renouer avec le désir.
En tout cas, ça m'est arrivé, ça, mais je pense qu'après Holly Motors, pour la première fois, c'était pas le cas. J'étais prêt à tourner le lendemain.
Et à quoi vous le sentez quand le désir vous rattrape, justement?
Déjà, il faut sortir d'un film, c'est-à-dire il m'arrivait de mal sortir des films, d'être déçu par moi-même, ou d'être malade, si vous voulez. Et le désir, c'est très mystérieux. Alors ça,
au point de ne plus pouvoir le revoir, ce film ?
J'ai jamais revu mes films, de toute façon. Mais
et devenir cinéaste, quand est-ce que c'est devenu un désir, Léo Scarrax ?
Quand je suis arrivé à Paris à 17 ans, et que je connaissais personne, et que j'allais voir les films muets à l'ancienne cinémathèque... Ouais, là j'ai compris donc qu'il y avait quelqu'un derrière la caméra. Et qu'évidemment, à l'époque, ça allait toujours d'ailleurs, quasiment que des hommes derrière la caméra. Et donc, qu'un homme et une femme pouvaient se retrouver autour d'une caméra et non seulement vivre quelque chose, parce qu'il y a beaucoup beaucoup de ces réalisateurs, quand je voyais les films, étaient amoureux de leur actrice. Donc ils pouvaient vivre ça intimement, mais en même temps partager ça autour d'une caméra. Ça me semblait, on ne pouvait pas faire mieux.
Je pensais que vous vouliez devenir musicien, moi.
J'aurais voulu une vie dans la musique, ça c'est sûr.
Pour quelle raison?
Parce que je vois pas mieux, je vois pas plus belle vie que de se pouvoir parcourir le monde avec sa voix ou ses compositions ou une guitare ou je ne sais quoi. Et puis la beauté, la joie de la musique. Mais bon, la musique a pas voulu de moi et donc ça a été le cinéma.
C'est intéressant parce que vous avez toujours porté un soin très méticuleux au choix des musiques dans chacun de vos films, mais c'est d'autant plus vrai dans Annette, qui est un film musical composé par le groupe américain The Sparks, à l'origine de ce projet. Quand on met en scène une comédie musicale pour la première fois, quelles questions très concrètes est-ce qu'on se pose en tant que réalisateur? Parce que j'imagine que vous avez dû vous poser des questions que vous ne vous étiez jamais posées auparavant.
Déjà, faire un film en musique, c'était une envie depuis le début, hein. Donc c'est une chose que j'ai un peu approchée dans mes films, mais par des courtes choses, des courtes scènes musicales. Dans mon dernier, avant-dernier maintenant, Holy Motors, donc, il y a une scène chantée, et donc ça m'a rassuré. La séquence de la Samaritaine avec Kylie Minogue.
C'était un de ces trous dont vous parliez tout à l'heure?
Oui, et on l'a fait, elle chantait, je veux dire, c'était pas du playback, c'est ça que je veux dire. et donc j'ai toujours eu l'idée de faire un film chanté. J'ai toujours pensé que ce serait impossible, là aussi, parce que je ne suis pas compositeur, etc. Et que je ne me voyais pas m'entendre avec un compositeur sur 30 ou 40 chansons.
Sauf les Sparks.
Eh ben, mais les Sparks, ça a été un peu miraculeux. Ils sont venus avec ce truc et moi, j'écoute les Sparks depuis que j'ai 12 ans.
Mais si je m'adresse aux cinéphiles, précisément les Oscarax, la comédie musicale, quel genre est-ce que c'est pour vous? Ça revoit à quoi?
Finalement, j'en ai vu assez peu, hein, quand j'étais jeune, en tout cas. Il y en a une que j'ai vue au même moment, d'ailleurs, à peu près, où je découvrais les Sparks. C'est Le Fantôme du Paradis, de Brian De Palma, qui était une comédie musicale avec un personnage de Faust. Et après, j'ai découvert plus tard, quand je suis arrivé à Paris, j'ai découvert les comédies américaines, allemandes, russes, ou, enfin soviétiques ou indiennes, et bien sûr les films de Jacques Demy.
Qu'est-ce que ça permet en tant que réalisateur, le genre de la comédie musicale?
Ah, j'ai du mal à imaginer maintenant faire un film sans ça.
C'est vrai?
Ouais, mais je le ferai, mais ça donne une liberté folle, en fait.
Ça... Oui, c'est ça, c'est ce que je me suis dit en voyant le film aller plus loin, toujours plus loin dans l'excès d'émotion, dans l'excès d'effet de mise en scène, dans l'excès de beauté aussi.
C'est-à-dire qu'avec la musique, ça vous offre presque une troisième dimension. Vous avez l'espace, le temps et la musique. Et on peut vraiment mettre des choses ensemble qu'on ne pourrait jamais mettre dans un film non chanté ou non dansé. On peut être profond et grotesque à la fois. On peut avoir des émotions extrêmement contradictoires dans un même mouvement. On peut suivre la musique ou aller contre la musique. Enfin, ça ouvre tout un champ.
Je parlais d'excès tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il vous évoque, ce mot, excès?
Je ne connais pas trop excès. Si, je connais, mais je pense avoir été excessif aussi.
Mais qu'est-ce qui peut-être pour vous fait la beauté de l'excès dans une époque qui souvent, sur le plan esthétique, hein, valorise l'épure, la mesure, la retenue?
J'ai l'impression que c'est très dur de faire exister une image parce qu'il y en a tant et que...
Et la beauté d'une image de cinéma, ça tient à quoi pour vous?
C'est extrêmement intime. Ça tient à ce que j'appellerais, vous savez, ce qu'on appelle l'illusion de déjà vu. C'est-à-dire...
Ah.
Enfin, les philosophes ont beaucoup réfléchi à ça. C'est une illusion qu'on peut avoir d'avoir déjà vécu un moment. Ça dure une demi-seconde ou je ne sais quoi. On appelle ça aussi un souvenir du présent.
C'est ça que vous essayez d'atteindre?
Ouais. On peut pas forcer, hein, on peut pas le chercher, mais c'est des moments quand on tourne où là on a la conviction qu'on est arrivé à destination. Au cours d'une prise ou au cours d'un... Voilà, autour d'une nuque d'une actrice, ou une chanson, ou un mouvement d'un acteur qui danse, ou je ne sais quoi, ou deux corps qui arrivent l'un vers l'autre, on a le sentiment, j'y étais déjà, j'ai été là un jour, et je ne le savais pas.
Dans quelle mesure faire un film, Léo Scarrax, c'est aussi se lancer à la recherche de la beauté?
Alors la recherche de la beauté, c'est comme beaucoup de choses, d'ailleurs, on peut dire, c'est un peu antinomique de rechercher la beauté, puisqu'elle vous... La beauté doit vous surprendre tout de même.
Elle doit vous surprendre.
Ouais. Ce que vous pouvez faire, c'est travailler dans des conditions qui, si on a de la chance, la font advenir. Mais on ne peut pas... Quand j'étais plus jeune, parce que j'ai commencé à faire du cinéma en même temps que j'ai découvert le cinéma, finalement. Et donc mes premiers films étaient comme des dettes d'amour au cinéma. Et je pense qu'il y avait cette recherche effrénée de la beauté qui était un peu artificielle ou maladroite. Et après, il y a un moment où on dit, laisse tomber. Un jour, j'ai vu la définition que je préfère de la beauté, qui est beauté et le signe qu'une chose a été aimée. Donc là aussi, on est un peu au passé, comme l'illusion déjà vue. Elle vient de là, la beauté.
On va reparler de cinéma quand même, de beauté et aussi de musique, juste après le titre qui ouvre votre film, Annette, May We Start par The Sparks. Vous êtes sur France Inter avec Léo Scarrax. Vous écoutez Boomerang, ça a déjà commencé, mais ça continue.
One, two, three, four. So may we start. So may we start. It's time to start. My time to start. They hope that it goes the way it's supposed to go. There's fear in them all, but they can't let it show. They're under. Budget is large, but still, it's not enough.
So may we start.
May we start. May we now start.
So may we start.
Sur France Inter, Augustin Trapenard.
Ah bon, on est quelque part entre Godard et l'homme invisible. Hein. Le front brumeux, l'œil nouvelle vague, on a comme l'impression qu'il n'est pas fait de chair et de sang, mais de vent. Capable à tout moment de disparaître pour ne plus laisser derrière lui qu'un tas de vêtements et un masque. Le cinéaste Léo Scarrax, invité de Boomerang ce matin, à quelques jours du coup d'envoi du Festival de Cannes, dont votre film Annette fera l'ouverture. Qu'est-ce qu'il y a de beau dans une marionnette?
Le risque, là aussi. C'est-à-dire le risque de la représentation, c'est-à-dire qui est-ce qui accepte ça? Les enfants l'acceptent d'emblée. Plus on grandit, plus on a un mélange d'effroi ou de malaise, et suivant la part d'enfance qu'on a encore en soi. Hein, mais je lisais un truc de Materlin qui parlait des marionnettes et il disait une créature qui n'a pas de mort autour d'elle, ça fait flipper. En gros, il disait ça, quel est le mystère de la marionnette? C'est qu'on est devant quelque chose qui ne peut pas mourir. Et on n'est pas habitué.
Vous diriez que ça dit quelque chose de ce qui fait un enfant aussi?
Bah, ça dit beaucoup de choses de l'enfance et de l'enfance et comment en sortir. Oui.
Oui, son extrême vulnérabilité, par exemple, le fait que le corps de l'enfant ne lui appartient jamais vraiment, qu'il est constamment soumis à l'autorité des adultes, à leur manipulation peut-être aussi. Qu'est-ce que c'est pour vous, un enfant, tiens?
Un enfant, c'est quelqu'un qui doit coûte que coûte s'inventer ou se réinventer. Se réinventer s'il a une vie pas facile ou des tragédies dans la famille. S'inventer s'il a une enfance morne et qu'il n'y a pas eu d'invention. Il n'a pas écrit sa vie, parce que les enfants rarement écrivent leur vie. Et c'est tout ça qu'il faudra apprendre dans les écoles si elles étaient bien faites.
Et quel genre d'enfant est-ce que vous étiez, vous?
Moi, j'ai eu deux enfances très différentes. J'ai eu jusqu'à 12 ans, je pense, très un peu voyou et leader de bande, quoi. Et à partir de 12 ans, totalement retiré et silencieux.
Et en tant qu'enfant, vous aviez conscience de votre corps?
Je n'ai pas de souvenir de ça. Je sais que je me cassais la figure tout le temps. Pour les photos d'enfance, j'ai toujours un nion ou un truc. Non, je me rappelle un anniversaire, ça doit être, je sais pas, 8 ans, 10 ans. où j'étais assis sur les marches de l'escalier de la maison, en robe de chambre, et j'ai croqué dans une pomme. Et là, j'ai eu cette voix qui m'a dit, et puis il croqua dans une pomme. Donc, comme si je me voyais de l'extérieur un peu, ou comme s'il y avait un dieu qui écrivait ma vie.
Et c'est comme ça, par cette anecdote, que vous êtes devenu cinéaste, que vous êtes mis à raconter des histoires, en fin de compte?
Bah, c'était le début de l'invention de soi, comme j'appelle ça.
Mais c'est le péché, la pomme croquée aussi, Léos.
Ouais, c'est ce qu'on cherche tous.
En tout cas, ce parti pris de la marionnette, il invite évidemment à s'interroger sur le statut du corps tout au long du film, et plus précisément sur celui du corps de l'acteur. Qu'est-ce que c'est un acteur pour vous? Quel outil? Quel allié?
C'est très dur à trouver. Un acteur qu'on veut personnellement filmer, pas. Il y a plein de bons acteurs. Mais l'acteur ou l'actrice, d'ailleurs. Pour moi, l'acteur, c'est particulier. Non, je suis un garçon moi-même, ou un homme maintenant, mais... Donc le choix est plus compliqué, presque pour une femme. Pour une femme, on peut se dire, on prend la femme qu'on désire le plus, ou qu'on désire le plus filmer, en tout cas. Mais pour le garçon, c'est plus particulier de trouver... J'ai finalement filmé que 3 garçons en 40 ans. Hein.
Donc c'était Guillaume Depardieu, c'était Denis Lavant, et c'était Adam Driver maintenant.
Oui, c'est ça. D'abord, ces 3 garçons-là sont des garçons intéressants, et tous les acteurs ne le sont pas.
C'est ce que vous attendez d'eux, qu'ils soient intéressants?
Qui m'intéresse, en tout cas moi, au moins de les regarder. Le cinéma commence par une personne qui en regarde une autre, donc si ça, voilà, il faut que ça m'intéresse ça. Et il y a forcément, je pense, une part de qui est propre à chacun, mais une part, si on parle de garçon, d'acteur homme, disons, il faut que la part masculine et féminine soit également intéressante.
C'était le cas pour Adam Driver?
Pour tous les 3. Beaucoup pour Adam, peut-être sans doute plus pour Adam et Guillaume Depardieu, oui. Qui sont des beaux garçons, masculins, mais félins, mais féminins aussi.
Est-ce que vous attendez d'un acteur qu'il s'abandonne à une performance aussi?
Dans mes films, il y a toujours quelques moments physiques, extrêmement physiques, qui sont un peu, là aussi, comme des trous dans le récit. Ça peut être une danse, un saut en parachute, un spectacle, enfin quelque chose qu'il faut travailler physiquement. Donc ça, c'est presque un travail un peu à part. Et je l'ai choisi, les acteurs, donc pour leur capacité physique aussi, évidemment.
À quoi ça tient pour vous, Léos Carax, une grande performance d'acteur, si ce n'est pas seulement dans ce trou de la narration?
Alors, j'ai jamais très bien compris les acteurs, ça c'est assez mystérieux pour moi.
Peut-être qu'il faut qu'il reste un mystère.
Ouais, c'est peut-être pour ça qu'ils sont si durs à trouver, enfin si durs à trouver le bon acteur pour un film. Et c'est pour ça qu'une fois qu'on a trouvé quelqu'un... On essaie d'imaginer d'autres films pour cette personne, parce qu'on sait qu'on tient là quelque chose de ce mystère, un bout en tout cas.
Dans vos nouveaux projets, il y aura Adam Driver?
C'est possible, oui. On en parle, mais je n'en sais rien du tout.
Qu'est-ce que vous faites du corps de l'acteur, Léos? Que deviennent ces corps dès l'instant où ils acceptent de jouer dans votre film, où la caméra commence à tourner ce que vous filmez? Vous les laissez libres?
Non, non. Que ce soit ce qu'on appelle la direction d'acteur, ou l'imagination, ou le tournage, ou le montage d'un film, quoi. Pour moi, il y a une chose assez obscure qui est de mon côté, parce que je ne sais pas comment font les autres, et je n'ai pas fait d'école de cinéma, je n'ai pas vu d'autres tournages que les miens encore. Mais une sorte de mélange, ouais, obscur, mystérieux, d'extrême précision et d'extrême chaos. Donc, de temps en temps, on s'appuie sur la précision. Il y a certains acteurs ou actrices qui sont plus à l'aise avec ça, comme Marion Cotillard est plus à la maison avec la précision, disons, mais elle accepte le chaos. Adam peut accepter l'un ou l'autre suivant les moments, ou refuser l'un ou l'autre, et ça peut le rendre fou, et on peut jouer de ça aussi. Mais c'est pour ça que quand on me demande comment je fais les films, ou comment je fais ça, un plan, une répétition, enfin je répète jamais, mais d'une part j'ai très peu tourné en 40 ans, et qu'il y a ce chaos qui règne, je suis toujours incapable je m'y vois pas, je sais pas comment on fait. Voilà, donc...
Vous savez pourquoi je vous pose la question? Parce que j'ai l'impression que vous réfléchissez à cela dans votre film Annette. À qui appartient au fond le corps de l'acteur, ou le corps de l'artiste en fait, dès lors qu'il est mis en scène, dès lors que son image est projetée sur un écran?
Ouais, non, c'était pas dans mon... Moi c'était l'enfant. Hein. C'était à qui appartient Annette. Les grands, ils se démerdent un peu. Oui. L'autre problème, c'était que c'est dans le film, c'est des célébrités, si vous voulez. Des gens qui ont du succès dans ce qu'ils font, voilà. Et ça, c'est jamais facile à montrer, parce que c'est difficile à montrer sans ironie, et j'aime pas l'ironie, ou elle peut désarmer tout un film. Mais je pense que dans Annette, c'est vraiment l'enfant qui prend cette question de à qui appartient son corps, à qui elle appartient, et Les autres sont grands et même s'ils vont à leur perte, tant pis pour eux.
C'est intéressant de vous parler d'acteur parce que vous le disiez un petit peu tout à l'heure, votre amour pour le cinéma, il naît de cela, de la fascination que les actrices exerçaient sur vous quand vous étiez petit. Il paraît d'ailleurs que vous aviez une relation très étrange avec Marilyn Monroe.
Ouais, parce que Marilyn, c'était la première quand j'étais enfant, là, du coup. Il y a ce fantasme d'homme que j'avais petit garçon un peu, qui était... J'aurais été là, elle serait pas morte, en gros.
La protéger?
Oui.
Bon, la sauver?
J'avais 10 ans.
Quelles images vous reviennent de Marilyn que vous pensez à elle?
Ouais, j'ai franchement l'impression de l'avoir connue, alors que... Peut-être que je l'ai croisée chez d'autres plus tard, des femmes merveilleuses mais fragiles. Ouais, j'ai le sentiment de l'avoir connue.
Mais qu'est-ce qu'elle incarne pour vous, Marilyn Monroe, pour vous, dont le film Léos Carax, après tout, réfléchit à la dimension quasi sacrificielle de la star de cinéma?
Ce qu'elle incarne, c'est quand on n'est pas à sa place, quoi, ce que, ni à son époque, ni peut-être au bon endroit, ni, et que tant de personnes ont profité de ça, mais quand je dis profiter, c'est pas forcément négatif. Enfin, je pense qu'elle a aimé tourner aussi, hein. Puis elle est devenue bonne actrice, même. Fait partie de ces gens, comme Brigitte Bardot, qui n'étaient pas des bonnes actrices, mais qui, sous le regard de certains et sous cette espèce de pression qu'elles ont dû subir, sont devenues très intéressantes.
Ça vous arrive à vous de ne pas vous sentir à votre place?
Ça m'arrive moins maintenant. Enfin, ça m'arrive encore d'ailleurs, mais de sentiment d'imposture. Avant, parce que j'ai commencé le cinéma sans. J'ai prétendu que je savais ce que j'allais faire. Je demandais de l'argent, alors que je n'avais jamais fait de film. Et puis depuis, parce que j'en ai fait si peu, donc à chaque film, presque, il y a ce sentiment d'imposture. Mais maintenant, ça va, c'est pas pesant, c'est... Plus jeune, ça l'était, oui.
Comment on s'en sort, en fait, de ça?
De l'arrogance, un peu... Il faut redoubler, c'est un peu comme au poker. Il faut bluffer un peu plus fort, il faut dire, ouais, je sais ce que je fais, je sais ce que je veux faire, je sais combien d'argent il me faut. Toute chose qu'on ne sait pas du tout, c'est une part de bluff.
Merci, Léos Carax, d'être venu faire un tour dans Boomerang. Merci pour cette dernière émission de la saison. Je rappelle que Annette est en compétition pour la Palme d'Or, qu'il sera projeté le 6 juillet en ouverture du Festival de Cannes et qu'il sortira dans la foulée. C'est un film assez grandiose, fait pour le grand écran, à mon avis. Merci à vous, Léos, et merci à toute l'équipe de Boomerang pour cette 7e saison qui était si riche. Pierre Martinery, sans toi, je suis rien. Lola Costantini, sans toi, je suis rien. Léonard Villot, sans toi, je suis rien. Perrine Malinge, sans toi, je suis rien. Jean-Baptiste Audibert, non plus. Et notre merveilleuse Anouk Roche, qui va tellement nous manquer la saison prochaine, puisqu'il y aura une 8e saison de Boomerang à partir du 30 août. Lundi prochain, vous commencerez l'été avec Dorothée Barba, qui prendra la tranche du 9-10 tout le mois de juillet, avant de laisser sa place à Eva Rock au mois d'août. Je vous souhaite à tous et à toutes le plus beau des étés, parce qu'on l'a bien mérité quand même.